Bienvenue José Quimonio à notre émission. Aujourd'hui, nous interrogeons un paradoxe criant. Pourquoi la RDC continue-t-elle de s'en remettre à la Banque mondiale et au FMI alors même que ces institutions imposent des politiques contestées? Pourriez-vous nous expliquer la nature de cette dépendance et pourquoi elle perdure?
Merci pour cette question essentielle. La dépendance s'explique d'abord par l'absence de vision souveraine. Les pays dits développés, même lourdement endettés, gardent le contrôle de leur trajectoire grâce à des équipes d'experts et des modèles éprouvés. Or, la RDC, faute de leadership éclairé, se contente d'exécuter des recommandations extérieures sans les questionner, ce qui alimente un cercle vicieux.
C'est frappant, d'autant plus que l'on observe, comme vous le soulignez, un double standard. Les institutions internationales moralisent les pays du Sud, mais restent silencieuses face aux écarts des nations riches. Est-ce uniquement une question de rapport de force ou existe-t-il d'autres facteurs structurels?
Les rapports de force sont déterminants. Mais il y a aussi la capacité des pays riches à réinventer leur politique, contrairement à la RDC qui souvent manque d'alternatives crédibles. La différence ne réside pas dans la compétence des institutions extérieures, mais dans la faiblesse de notre propre appareil décisionnel. C'est là que naît le scandale d'une soumission volontaire.
À vous entendre, la responsabilité majeure incombe donc aux dirigeants locaux. Quelles en sont les conséquences concrètes pour la société congolaise?
Les conséquences sont visibles. Absence de transformation structurelle, reproduction des mêmes erreurs et une population laissée pour compte. Plutôt que de s'émanciper, la RDC reste enfermée dans un modèle imposé sans vision propre. C'est un peu comme si l'on naviguait en pilotage automatique sans jamais chercher à prendre la barre.
Poursuivons avec une image forte, celle de mettre l'argent dans l'ascenseur. On comprend que cela désigne des subventions massives destinées à une minorité déjà favorisée. Pourriez-vous expliciter ce mécanisme et ses effets?
Bien sûr, mettre l'argent dans l'ascenseur, c'est injecter des fonds publics au sommet de la pyramide, espérant que la richesse redescende. En réalité, ces subventions profitent à des entreprises proches du pouvoir, sans effet d'entraînement notable pour l'économie réelle. Par exemple, plus $1 milliard ont été alloués au secteur pétrolier en 3 ans, sans bénéfice tangible pour la population.
On pourrait argumenter que soutenir les secteurs stratégiques favorise la stabilité. Y a-t-il des exemples internationaux où ce modèle a réellement fonctionné?
C'est une bonne question. Les pays industrialisés ont parfois soutenu des industries, mais toujours avec des contreparties strictes, une transparence et un suivi rigoureux. En RDC, ces subventions sont souvent opaques et servent davantage à maintenir des privilèges qu'à stimuler l'innovation ou l'emploi. On se retrouve donc avec une croissance factice, sans transformation réelle.
Concrètement, que se passerait-il si l'on cessait ce modèle?
On pourrait imaginer à l'inverse d'injecter directement l'argent dans l'économie populaire, appuyer les petits commerces, les agriculteurs ou les familles vulnérables. Ce serait comme jeter l'argent par la fenêtre, mais vers ceux qui en ont réellement besoin, créant un effet multiplicateur positif pour la société entière.
Un autre point épineux, les exonérations fiscales. Elles sont dénoncées comme un scandale budgétaire, mais aussi utilisées dans de nombreux pays. Quelle est la spécificité congolaise en la matière?
La vraie singularité congolaise, c'est le manque total de filtres. Ici, l'exonération est instrumentalisée comme une monnaie d'échange politique, récompensant les proches du pouvoir plutôt que de soutenir réellement les secteurs vulnérables. Cela crée un système où la fiscalité concentre la richesse au lieu de la redistribuer.
Certains pourraient dire que les exonérations stimulent l'investissement. Où est la limite entre incitation économique et captation de l'État?
Tout dépend du ciblage. Une exonération bien pensée peut effectivement déclencher une dynamique positive, comme dans certains pays d'Asie. Mais ici, l'absence de contrôle transforme l'outil fiscal en privilège réservé aux initiés. C'est l'exact opposé d'une fiscalité équitable et cela alimente un sentiment d'injustice généralisée.
Quelles seraient alors des pistes concrètes pour réformer ce système?
Il faudrait instaurer la transparence, conditionner les exonérations à des engagements clairs en matière d'emploi ou d'innovation, et surtout renforcer la capacité de l'administration à contrôler leur efficacité. Sans cela, la fiscalité restera un obstacle au développement inclusif.
Pour finir, ouvrons le débat sur une autre forme d'investissement public, financer l'humain, la recherche, l'innovation. Ce choix est parfois critiqué comme du gaspillage. Comment convaincre qu'il s'agit au contraire d'une stratégie gagnante ?
Prenons l'exemple de la Corée du Sud ou de l'Allemagne qui ont massivement investi dans l'éducation et la recherche, créant ainsi des miracles économiques. Injecter des fonds dans les universités, la formation ou les start-up technologiques n'est pas une dépense vaine. C'est semer les graines de la souveraineté, de l'innovation.
Mais face à l'urgence sociale, certains pourraient objecter que ces investissements sont trop longs à porter leurs fruits. Comment répondre à cette préoccupation ?
C'est une objection légitime et elle néglige l'effet multiplicateur. Un jeune bien formé pourra créer son entreprise, innover, employer d'autres personnes. Même à court terme, des programmes de stage public ou de bourse stimulent l'économie locale. C'est investir dans les possibles, pas seulement dans l'urgence.
Pour conclure, existe-t-il des exemples de politiques publiques innovantes à portée de la RDC ?
On pourrait lancer des fonds de recherche nationaux, financer des projets pilotes dans l'agriculture intelligente ou l'énergie verte, et rémunérer les jeunes pour apprendre et bâtir. Oser jeter l'argent par la fenêtre, mais cette fois vers la rue vivante, c'est peut être la meilleure façon d'inventer notre propre avenir. Merci pour l'invitation.